Masterpiece, le podcast.
Masterpiece. Et tu fais quoi ce soir ?
Je vais au théâtre de l'Union.
Ah bon ? Tu vas voir quoi ?
Angels in America.
Ah, mais c'est pas une pièce de Tony Kushner, ça ?
Si, et mis en scène par Aurélie Vandendal.
Il y a plusieurs représentations.
Oui, du 16 au 18 décembre, tu viens ?
Allez, on y va. Bonjour Aurélie, vous êtes la nouvelle directrice du théâtre de l'Union. Et du 16 au 18 décembre, vous présenterez votre travail pour la première fois au public de Limoges avec la pièce Angel in America. Le texte a été écrit par Tony Kushner en 1991. Quand est-ce que vous avez découvert ce texte et est-ce que c'est dès la rencontre que vous avez eu envie de le mettre en scène ?
J'ai découvert cette pièce il y a très longtemps, quand j'étais étudiante au conservatoire de Clermont-Ferrand. Et en fait, j'avais très envie de la voir jouer déjà. Donc il y a des camarades de cette promotion qui l'ont jouée. Et après, je l'ai vue plusieurs fois mise en scène. Et donc ça me trottait un peu dans la tête, cette idée de se frotter à cette saga. Mais c'est très impressionnant. Donc ça m'est pas venu tout de suite l'idée de la mettre en scène. Mais par contre, elle m'a beaucoup accompagnée, la pièce. Je pense que c'est aussi tout un rapport avec la maladie dans la société contemporaine que j'ai traité dans d'autres pièces qui étaient plus ou moins plus drôles ou plus tragiques. Et là, je trouvais aussi que lui, il arrivait à mêler vraiment ces deux aspects-là. Et c'est ça qui m'a déclenché, je pense, vraiment le pas. Parce que quand on décide de mettre en scène une pièce comme ça, c'est vraiment une aventure.
Donc vous vous êtes nourrie de toutes ces adaptations pour réaliser votre mise en scène ou vous êtes partie vers quelque chose de diamétralement opposé ?
Alors moi, j'ai beaucoup re-regardé les autres mises en scène qui avaient été faites, les traductions aussi, parce qu'en fait, la traduction, elles étaient assez anciennes. Moi, je m'inspire toujours parce qu'il y a des metteurs en scène comme Ivo Vonov ou Varlikovsky, qui sont des metteurs en scène étrangers qui ont monté la pièce bien avant, ou Brigitte Jacques, qui est la première femme qui a monté cette pièce en France. Moi, je me suis beaucoup renseignée. Parce que, en fait, quand on monte... Alors, c'est presque un classique, Angels in America, c'est-à-dire, au conservatoire, le directeur, il disait, quand on monte une pièce contemporaine, c'est pas du tout pareil qu'un classique, parce qu'un classique, on monte aussi la mémoire de l'œuvre avec, toutes les versions qu'il y a eu, l'histoire de comment elle a été créée. Et pour ça, moi, je trouvais important de se dire, on s'inscrivait dans une histoire, et qu'on ne pouvait pas faire fi des autres versions qui avaient été faites, donc certaines beaucoup plus longues, certaines beaucoup plus courtes. Donc, ouais, on a beaucoup regardé et après c'était aussi beaucoup de recherches personnelles des acteurs d'autres matériaux. Moi par exemple j'ai lu un livre qui s'appelle Réflexion sur la question gay de Didier Ribon qui m'a beaucoup inspirée aussi pour la mise en scène où il parlait de l'injure quand on était différent, du pouvoir de l'injure. C'est des choses qui ont été assez déterminantes pour moi dans la mise en scène après. Adolescente, j'ai eu une très grande passion pour Hervé Guibert. Je ne sais pas voilà, si vous connaissez, c'est vraiment un artiste qui a fait aussi de sa maladie son œuvre, qui a écrit donc une trilogie, dont la première qui s'appelle « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », ou le deuxième, je ne sais plus. Il raconte voilà, vraiment l'arrivée aussi du sida en France, et qu'est-ce qui nous sauve ou pas, les rumeurs aussi, toute cette dimension-là, qui est un livre vraiment magnifique. Et voilà, ça c'est des inspirations aussi très fortes sur aussi ce qu'il a fait de son corps, comment il l'a filmé dans toute la fin de sa vie. Voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspirée.
C'est une pièce assez longue qui dure 4h40 sur scène, mais qui aurait pu l'être d'autant plus vu la longueur du texte. Comment est-ce que vous avez fait pour réduire la durée de la pièce ?
Lui-même, dans comment il a écrit des scènes facultatives aussi. Donc il se dit, voilà, je vais écrire une saga, mais quand même, au cas où, j'indique qu'il y en a qui ne sont pas obligées d'être faites. Après, j'ai dû beaucoup négocier pour couper, parce qu'en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre, une espèce d'œuvre aussi très protégée. Donc j'ai beaucoup discuté avec Tony Kushner par mail en anglais pour lui argumenter les coupes que je voulais faire, qui étaient aussi pour moi des coupes qui correspondaient à des choix de personnages, où c'est qu'on voulait aller, jusqu'où on voulait aller avec tel ou tel personnage, pour arriver à cette durée-là. Il y avait un double enjeu pour les interprètes, je trouve que c'est de tenir le souffle de tout ce qu'ils ont à jouer, et de ne pas déployer l'intégralité des enjeux, parce que normalement on va dire une construction classique, c'est quand même vraiment plus court. Donc là, il y a vraiment des moments où ils doivent un peu percuter l'émotion pour être au bon endroit. Et après, je dirais que pour moi, dans la mise en scène, c'est aussi vraiment de réussir à tenir le suspense que Kushner vraiment inscrit au sein même de son intrigue, avec des destinées de personnages où on les quitte à un endroit, ils sont vraiment dans un moment clé, on va les retrouver après. Donc c'était pour moi d'arriver aussi à rendre compte de ça, en sachant qu'il écrit vraiment comme au cinéma.
Comment est-ce qu'on arrive à garder en haleine des spectateurs pendant presque 5 heures? Car c'est quelque chose qu'on a rarement eu l'occasion de vivre à Limoges, avec une pièce aussi novatrice. Pouvez-vous nous expliquer tout ça?
C'est vrai que je pense que ça fait toujours un peu peur. Mais moi, spectatrice, quand j'ai vécu des expériences comme ça, j'ai trouvé que c'était génial vraiment de vivre ça. Donc c'était un souhait de faire partager aussi une expérience de spectatrice. Après, comment on arrive? Je pense par des mécanismes de... On prend un peu la main au spectateur dès le début du spectacle, parce qu'en fait, on l'accompagne pour lui dire que ça va être une grande traversée. Quand les gens rentrent dans la salle, le spectacle a déjà commencé, les interprètes sont déjà sur scène, sont en train de faire un bowling, ils se présentent. C'est un générique, comme un générique de série. Et l'idée, c'est dès le début de dire qu'on va passer un moment ensemble. Donc ça, c'est un peu pour répondre à l'aspect pratique. Moi aussi, ce qui m'a rendue déterminée pour le faire, c'est que quand j'ai su que j'étais nommée ici, en fait, en juillet, je suis venue et il y avait une pièce de Sylvain Creusot qui durait 3h30, qui s'appelait donc Les Frères Karamazov de Dostoïevski, qui était, je trouve, une pièce extrêmement ambitieuse, avec une intrigue transposer de la littérature. J'ai vu le public rester, être présent, être attentif, recevoir vraiment fortement le spectacle. Donc je me suis dit, si, c'est bon. Et après, je pense que c'est... je vois pas pourquoi on pourrait le faire partout en France et pas à Limoges. Parce que nous, on a joué par exemple à Toulouse, à Lyon. Alors, c'est des grandes villes, mais on a aussi joué à Aubergenville, dans le 78, à Guyancourt, enfin des endroits aussi où c'est pas non plus des grandes villes qui ont cette habitude. Donc je me suis dit, on peut le faire. Après, c'est plus qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on fait pour rester 5 heures au théâtre avec un masque? Ça, c'est une vraie question que j'espérais qu'on ait moins à se poser à cette période de l'année, en fait. Parce que quand on a décidé ça, c'était entre juillet et septembre, et on était plutôt dans une phase positive. Ça, pour moi, là, ça devient aussi une question plus prégnante, parce que je me dis, si... toute l'épidémie réduit le champ artistique, ça pour moi c'est une vraie question fondamentale, quoi, parce que je pense que c'est quand même dans l'exception qu'on fait une expérience de spectateur, c'est-à-dire une fois quelque chose qui peut être très long. Moi j'ai aussi envie qu'il y ait des formes très courtes pour très peu de spectateurs. Moi j'ai vu aussi beaucoup de choses pour de 1 à 15 spectateurs, où c'est vraiment aussi un autre travail d'adresse. Moi, j'aimerais bien faire ça aussi ici. Donc, je trouve que c'est dans la multiplicité, voilà, qu'on peut faire tenir aussi un public à vouloir vivre des expériences. Après, c'est vrai que la question du masque, elle est quand même importante.
Alors, c'est la première fois que vous présentez votre travail à Limoges. En quoi cette pièce, elle est significative justement de votre travail, de ce que vous souhaitez inculquer au théâtre pendant les prochaines années?
C'est vraiment une pièce qui nous a beaucoup marqué parce que c'est vraiment une aventure humaine très très forte. Et je pense que ça nous a vraiment... Ouais, marqué à la fois parce que on abordait des sujets très graves, la maladie, le corps et comment ça s'est impacté dans une société qui ressemblait quand même déjà beaucoup en 2015 à la nôtre, une société qui est vraiment en train de se refermer, qui est très communautaire, avec beaucoup de mal à aller vers l'autre. Et en fait, c'était une grande aventure humaine pour nous et aussi avec les spectateurs, spectatrices, parce que c'est 5 heures avec des gens et quand même, c'est pas du tout la même expérience, je trouve, que quand on va voir 1h30 de spectacle. Et ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, je pense que depuis, je le cherche vraiment à le retrouver. Comment on fait du rituel au théâtre, comment on partage vraiment une aventure, et de chercher aussi les moyens que ce soit vraiment du vivant et du présent, et encore plus maintenant parce que l'image est partout, la reproduction est partout, donc le théâtre c'est vraiment un à côté. L'idée c'était de dire voilà ce qui nous a un peu fondé et voilà ce qu'on a envie de vous présenter. Et c'était aussi une manière de dire, comme je sais que ce théâtre il a aussi beaucoup d'histoires, que moi je vais aussi m'inscrire dans une histoire parce qu'on en a une aussi, et en même temps inventer des nouvelles formes avec Limoges et le territoire.
Concernant la scénographie, vous travaillez avec le collectif In Vivo, un collectif d'art immersif. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'importance de la scénographie et sur votre collaboration avec ce groupe d'artistes dans le cadre d'Angel in America ?
Collectif In Vivo, donc je les ai rencontrés, ils m'ont énormément aidé parce qu'ils sortaient de l'ENSAT quand on s'est rencontrés. Donc c'est aussi une école supérieure nationale qui forme des créateurs, lumière, vidéo, son, des acteurs, des auteurs, des metteurs en scène. Une école à Lyon qui est très très complète. Et ils ont un peu changé ma vision des choses, c'est-à-dire comment on passe un peu de sa tête au plateau. Et que si la recherche, c'est aussi une recherche d'image, ce qui est le cas quand même chez nous, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, en tout cas ils sont pensés et ils servent vraiment quelque chose dans l'histoire, il faut une traduction en fait scénique pour le faire, sinon on reste toujours un peu à l'état de projet. Et en fait ils ont un langage technique très poussé, donc ça, la scénographie, le dispositif, ça a une place très importante, et d'ailleurs tellement importante que nous, on fait partie des équipes qui répétons avec les créateurs lumière, son, scénographie dès le début. Donc ça, c'est vraiment pas la méthode de tout le monde. Il y a des gens qui font venir la scénographie après. Et ça a une part très importante pour moi parce que moi, sans espace, je ne sais pas tellement penser le spectacle. On va dire, ma structuration de pensée, c'est vraiment le lieu. Alors qu'il y a d'autres, par exemple, artistes qui pensent d'abord le plateau, puis après des éléments scéniques arrivent. Donc c'est vraiment différents modèles.
Lors de notre premier podcast, les comédiens nous ont rappelé à quel point c'est une pièce intemporelle qui traduit aussi bien l'époque dans laquelle elle s'inscrit et notre époque actuelle de 2021. Comment on traduit un espace à la fois actuel et qui est ancré tout de même dans une époque précise, celle des années 80 ? Quel est le rôle de la scénographie dans cela ?
Oui, bah c'est une bonne question parce qu'on se l'est beaucoup posé, parce que dans le texte, il y a quand même beaucoup de références aux années 80, enfin je veux dire, ça parle de Reagan, ça parle du ministre de la Justice de cette époque-là, d'Ethel Rosenberg. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de tirer quand même la fable vers quelque chose qui pouvait nous atteindre et qui pouvait faire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette période, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes quand même depuis 2015 qu'on joue la pièce, pouvait en tout cas comprendre les tenants et les aboutissants de l'intrigue, et aussi de se dire en fait... dans la pièce, Kouchner, il dit qu'il parle beaucoup de l'imagination, du pouvoir de l'imaginaire. Il y a quand même un aspect très important, c'est que ça s'appelle Angels in America. Donc les anges, ils ont finalement une part secondaire par rapport aux destinées humaines, mais néanmoins, ils ont une part dans la pièce. Et en fait, ils servent aussi à dire qu'il y a une opposition entre les anges et les humains, parce que les humains ont la faculté d'imaginer. Et cette faculté-là est un peu exacerbée chez certains des personnages, comme Harper, qui va vraiment avoir des amis imaginaires, un monde en soi. Et donc, dans l'idée, c'était que la scénographie puisse contenir ces moteurs-là, quoi, de transformer un espace, de le rendre plus imaginatif. Voilà, il y avait ça. Et aussi, il y avait que les références soient américaines, mais pas contextuel. Donc, par exemple, il y a quand même beaucoup d'anachronismes dans la pièce. Il y a des portables, il y a des choses qui sont d'aujourd'hui. Ça, c'était un souhait pour éviter le côté reconstitution un peu de cette période, qui me semblait un peu pauvre, parce qu'en plus, la pièce, elle parle aussi vraiment beaucoup d'aujourd'hui, de comment une épidémie va changer notre rapport aux autres, au corps, de manière assez brutale en plus. Alors là, c'est encore autre chose, le sida dans les années 80, mais je trouve que la pièce, elle résonne avec cette chose-là qu'on vit.
C'était Masterpiece, un podcast réalisé par le Master CCIC de la Fac de Lettres de Limoges, avec la participation d'Aurélie Vandendal, directrice du Théâtre de l'Union. Merci pour votre écoute, la suite au prochain épisode.